Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler aujourd'hui d'un mal qui ronge certains des plus grands combattants actuels et même de l'histoire du MMA, plus particulièrement les champions. Cette pression, ce poids de porter la ceinture UFC. Par le passé, il y a eu Anderson Silva, il y a eu Georges St-Pierre, il y a eu Kamaru Usman et désormais, c'est un certain Brandon Moreno qui souffre de ça et on va voir tout ça avec notre psychologue d'un particulièrement grand comptoir, Big Rusty.
c'est ça. Ça va être intéressant parce que c'est un truc qui est arrivé au plus grand de tous les temps, comme vient de vous le nommer Guillaume. Et c'est au point où là, Moreno, il va prendre une pause tellement il n'en peut plus mentalement, en fait. C'est lourder la couronne, comme on dit. Mais là, c'est au point où on va voir tout ce qui rentre en compte parce que c'est le fait de vendre les pay-per-view, d'avoir une cible sur soi continuellement, d'être sous le feu des projecteurs, qui fait qu'en fait... Alors, je ne veux pas utiliser le mot charge mentale parce que je sais que ça peut être... Enfin, c'est peut-être pas pour ça que ça doit être... Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que c'est peut-être pas le mot qui convient, mais bah, c'est l'idée en tout cas.
Swear.
Big Rusty, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier chez les champions qui ont l'air, pour certains, soit comme Brandon Moreno, qui vont faire cette pause-là une fois qu'ils ont déjà perdu la ceinture, mais qui ressentent toujours cette pression, ou ces combattants qui peuvent perdre, mais se sentir un petit peu soulagés, comme Kamaru Usman quand il avait perdu le titre face à Leon Edwards.
C'est ça. Et en fait, on va vous lire les différents témoignages parce que chacun apporte un peu une pierre pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils veulent dire. Parce que, et particulièrement, moi, c'est le témoignage de Georges St-Pierre que j'ai trouvé super intéressant parce qu'il parle du fait que il est conscient que il a tout ce qu'il faut. Il a de l'argent, il est connu, tout le monde le révère, il gagne ses combats. Donc, en fait, le témoignage de Georges St-Pierre, vous allez voir, il est en mode « Je sais que ça n'a pas de sens que je sois en dépression parce que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu depuis que j'ai commencé ce sport et pourtant, je n'en peux plus. » Donc, vous allez voir et en fait, pour commencer effectivement par Brandon Moreno parce que c'est lui qui est dans l'actualité et qui nous a donné envie de faire ce podcast et il dit, et alors il faut bien garder à l'esprit, il n'en parle pas dans sa déclaration mais je ne vois pas comment ça peut ne pas être le cas. Il est mexicain aussi et je pense qu'il y a le côté, le poids de son peuple en fait parce que c'est une des figures, une des stars du MMA au Mexique qui est vraiment un pays dans lequel le MMA est en plein boom. Et donc je voulais une partie de sa déclaration. Il disait donc « Je suis fatigué ». Même au-delà de tous ces aspects techniques, je suis juste fatigué des médias, des mêmes questions tout le temps, de l'ambiance, de la pression constante. C'est même plus un moment comme ça de temps en temps. Maintenant, c'est tout ce qui s'empile sur mes épaules depuis ces dernières années. J'ai atteint un point où mon esprit est stressé et je veux juste me reposer un peu. Je dis pas que je me retire à 100% du MMA, mais je veux juste pouvoir prendre une petite pause, être avec ma famille, juste être une personne normale, être avec mes filles et faire de nouvelles choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait parce que je suis à 100% concentré sur mon entraînement et voilà, je veux juste me reposer un petit peu. Et il termine en disant « Je pense que j'ai tout simplement atteint les limites de mon esprit et je suis fatigué. » Mais hors de ça, en dehors de ça, tout est excellent. Je suis heureux, j'ai fait l'événement le 24 février avec tous les Mexicains qui ont eu des victoires eux aussi. Ah bah donc en fait, s'ils parlent du Mexique, et on les a vus dans des gros événements et je pars parce que c'est une défaite qu'il a eu dans son dernier combat, mais il dit donc je pars avec tout ça et le support des Mexicains. Donc il y a aucune manière que je puisse redonner à tous ces gens ce qu'ils m'ont donné, mais en gros il dit voilà, tout ce que je peux promettre c'est que je vais continuer à combattre, que je vais continuer à avancer et que je vais retrouver la bonne manière d'avancer. mais je dois juste laisser un petit peu de repos à mon corps et mon esprit. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé vraiment super intéressant, et vous allez voir, c'est encore confirmé parce que Georges Saint-Pierre dit, mais c'est vraiment ce côté, on n'imagine pas en fait que c'est possible. Parce que tu vois, nous, humains normaux, on nous dit, bon, t'as ton rêve c'est de devenir champion UFC. Tu t'entraînes de toute façon depuis que soit t'es gamin, adolescent ou depuis que t'as la vingtaine pour ça. Là, il est richissime, Brandon Moreno, il est adulé par tout son peuple, il a fait des guerres avec tout le monde, il a eu des victoires, des défaites, mais c'est même pas les défaites qui le pèsent, c'est juste cette pression constante médiatique et d'être sous le feu des projecteurs au point où tout le monde attend tout le temps ce que tu vas faire pour te poser des questions, te demander, etc. Et ça leur pèse, alors que ce sont les gars les plus solides mentalement, au point où eh ben, ils ont besoin, ils n'en peuvent plus, ils ont besoin de faire un break, de s'éloigner et d'arrêter leur sport, leur passion, quoi.
Ce qui ne me surprend pas, Big Rusty, parce que c'est vrai, quand on compare aux autres sports, évidemment, dans toutes les autres disciplines, vous prenez le basket, le football américain et j'en passe, sport d'équipe, hein, notamment, à chaque
Ouais.
fois, les gars, ils doivent, l'objectif, hein, c'est de, soit, enfin, de battre l'adversaire, de battre l'équipe adverse. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des situations où, en plus de battre l'adversaire, vous êtes mis en concurrent direct, genre, vous êtes, par exemple, il y a deux gardiens qui se battent pour la position de titulaire, c'est là que c'est hyper chaud. Vas-y, pardon, Big Rusty.
Et non, et simplement pour interjecter et répondre à ce que tu dis avant de te laisser continuer. Et en plus, du coup, je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais dans les sports collectifs, la responsabilité, elle est divisée, elle est diluée. Tout ne repose pas sur toi. C'est toute l'équipe, tu as 11 personnes, les remplaçants, etc. Et en plus, tu as des matchs toutes les semaines. Ce qui fait que, tu sais, c'est un peu comme les définitions de la pression en physique, tu vois. Bah, c'est, tu as une superficie sur laquelle tu as une force qui est appliquée. Et ben, plus la superficie est réduite, et du coup, plus avec la même force, la pression, elle est forte. Bah, si sur la pression, genre, c'est ultra une superficie qui est ultra étendue, bah, la pression, elle est absolument pas la même. Là, c'est vraiment littéralement la même chose, quoi.
On appréciera la métaphore. Big Rusty, j'ajoute aussi avec par rapport à ça, ça ajoute un petit peu de doute, et c'est Dana White dans l'interview qu'il a accordé, enfin dans le podcast, il était chez Lex Fridman, et c'est très intéressant ce qu'il dit, et pour moi ça confirme tout ça. C'est que justement, on parlait des sports collectifs, bon bah les sports collectifs, vous jouez plus régulièrement, vous perdez une fois, c'est pas grave, vous avez toujours une occasion de vous rattraper. Dana White disait, de toute façon, quand vous êtes un gros nom, il y a tous ces mecs du top 10 qui ne rêvent que d'une chose, c'est donc qui sont en plus des tueurs à gages, qui rêvent de prendre votre place, par exemple le combat, et il parle justement du combat BSD contre Dustin Poirier, où, et il compare ça avec la boxe, ça n'aurait pas pu se faire en boxe, et nous on arrive à faire ça tous les week-ends. Donc au-delà de ça, vous êtes dans une situation comme Brandon Moreno, vous avez trois combats, et on le dit assez régulièrement, vous avez trois combats max dans l'année, et chaque fois il y a cette pression de dire vous allez potentiellement perdre votre statut. Et après, voyez à quel point c'est dur pour le récupérer. Alors que dans les autres sports, la plupart, évidemment, une fois que vous êtes installé, ça ne bouge pas vraiment jusqu'à ce qu'il y ait le vrai déclin. Mais à partir du moment où il y a le déclin, c'est vous avez 35 piges. Vous savez que vous êtes loin de vos plus belles années, alors qu'en MMA, deux défaites consécutives, même un KO, ça peut être le basculement de beaucoup de choses. Regardez Kamaru Usman qui, et on en parle, il est sur trois défaites consécutives, mais c'est peut-être en soi les trois défaites consécutives les plus belles qu'on aimerait avoir, parce que il y a ce KO extrêmement tard contre Leon Edwards, deuxième combat c'est très serré, mais on voit que c'est pas le même Kamaru Usman, et le combat contre Hamzat, oui, il perd clairement le premier round, mais ensuite c'est très très chaud. Donc, sauf que ça fait trois rouges. Le mec a plus de 35 piges, on commence à se dire est-ce qu'il serait pas en déclin? Big host.
Et en plus, du coup, par rapport à Kamaru Usman, ben lui, c'est vraiment intéressant parce que il y a eu cette même délivrance, en anglais, il est relieved, comment est-ce qu'on pourrait traduire? Ouais, c'est ça, le fait d'être libéré un petit peu de cette pression et de tout ça. Ben, lui, c'est arrivé après qu'il ait pourtant pris un KO par Leon Edwards, le KO qui a fait le tour de la planète, le KO qui a été vu par tout le monde, qui est, enfin, j'ai pas envie d'utiliser le terme humiliant parce que c'est pas le cas. On le sait que c'est pas une humiliation, nous, fans de MMA et même des nouveaux fans. Mais pour les gens qui ne suivent pas le MMA, bah, c'est ceux qui vont sur TikTok, sur Snap, etc., où bah, ils voient ça passer, ils suivent ça de loin, ils se disent, oh, le mec s'est fait éclater, etc. Donc ça aurait dû être quelque chose peut-être qui attaque sa psyché. Ça, genre cette partie-là du fait d'avoir été mis comme ça à nu devant toute la planète. Et pourtant, bah Dana White révélait dans une interview il y a quelque temps qu'en fait, lorsqu'il avait parlé à Kamaru Usman après cette défaite par KO, cette première défaite, Dana White disait au reporter à l'époque, nous avons parlé et évidemment, il veut le rematch et il le veut salement à propos du combat contre Leon Edwards, mais Kamaru Usman m'a dit, je peux te dire que là, il y a un poids qui a été enlevé de mes épaules. Et en gros, du coup, Dana White continue en disant, il y a énormément de pressions qui vont avec le run sur lequel il était. Il était en train d'essayer d'égaliser le record d'Anderson Silva. Toutes ces choses-là, c'est énormément de pression. Et donc là, effectivement, il a hâte d'être au rematch. Mais c'est donc ça, c'était pour Kamaru Usman. Et c'est intéressant de voir que le fait de ne plus avoir, de ne plus être celui sur lequel toutes les cibles sont, parce que quand tu es champion UFC, tout le monde te call out, tout le monde parle de toi, et il y a ce côté, du coup, c'est pas je dois pas décevoir, mais c'est il faut que je montre que je suis à la hauteur de tout ça et de tous ces gens qui ont la cible sur le dos, parce que ce sont des compétiteurs extrêmes, les champions UFC. Ce sont des gens, ils se matrixent tout seuls, ils se mindfuck tout seuls à longueur de journée, c'est ce que dit Georges Saint-Pierre, parce que comme ils sont compétiteurs, comme on ne peut même pas imaginer l'être un jour, nous, humains normaux, ils ne pensent qu'à ça toute la journée. Ils voient un call-out de Dustin Poirier, par exemple, ils voient un call-out de Benoît Saint-Denis, mais il en a vu des dizaines et des dizaines d'autres la même année. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il voit quand il voit le call-out de Benoît Saint-Denis qui dit « Moi, j'aimerais trop faire une guerre avec Dustin Poirier et réussir peut-être à le terminer. » Il se dit « Putain, ok, donc là, il y a ce gars-là qui est derrière mon dos, il a la cible. » Moi, du coup, d'un autre côté, j'ai envie de monter un peu plus dans les classements, mais de l'autre, j'ai quand même envie de prouver que c'est moi le patron. Il faut le faire avec tous les contenders. Si je prends pas le combat, ils vont dire que je me défile, machin, machin. Et la personnalité de compétiteur presque maladif, mais parce que c'est ce qu'il faut à ce niveau-là, prend le dessus et te ronge mentalement. Et donc, c'était assez intéressant de voir ça pour Kamaru Usman. Et puis, du coup, très rapidement, il y a aussi le cas Anderson Silva. Pareil, juste après le KO qu'il avait pris contre Chris Weidman, même délire que Kamaru Usman, et c'est son coéquipier André Galvao qui avait dit, en faisant d'ailleurs référence à... de MMA.com, mais en faisant référence à Matt Hughes, qui avait vécu la même chose avant lui. Donc vous voyez, c'est pas une question de « Ah, lui, il a cette personnalité, donc peut-être qu'effectivement, ça le brise un peu plus facilement. » Non, c'est inhérent à... un certain statut quand tu atteins un statut de champion dominant depuis plusieurs combats ou de champion dominant vu comme installé depuis déjà quelques temps, quelques combats ou quelques années. Et donc, André Galvao disait à propos de Anderson Silva, d'un côté, cette défaite, c'était bien pour lui. Il gagnait toujours tous les combats et même quand il avait tout à perdre. Donc, je pense que ce sera une bonne leçon pour lui parce que quand le combat s'est terminé, donc là, il parle du combat où il a pris le KO contre Chris Weidman, eh ben, il est venu, il a réalisé ces choses-là. Il était soulagé que cette pression ait été enlevée de son dos et de ses épaules. Et c'est marrant parce que c'est toujours un peu les mêmes expressions qui reviennent. Et c'est normal parce que ça doit être un sentiment qui est du coup commun à tous ces gars-là. Et du coup, bah oui, son palmarès, forcément, son palmarès en a pris un coup quand il est tombé. Et il était même attristé et il s'est excusé auprès de toute l'équipe. Bon, bah ça, c'est un truc un peu différent, mais voilà, que sur sa sensation à l'époque. Et maintenant, je vais vous lire le témoignage qui est pour moi, il l'a exprimé de la meilleure manière, c'était Georges Saint-Pierre, et c'était après son combat contre Johnny Hendricks, il me semble, où il avait donc pris sa fameuse pause, alors même qu'il avait gagné, mais vraiment sur le fil du rasoir.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc Georges Saint-Pierre disait quelques années après, je pense que j'aurais dû prendre ma retraite après le combat contre Nick Diaz en mars 2013. J'aurais dû prendre un break. Si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais pu revenir un peu plus tôt dans ma carrière. Parce que oui, il est revenu 4 ans après contre Michael Bisping. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ressentais ce besoin d'avoir toujours ce combat contre le prochain gars. Parce qu'il y avait toujours un prochain gars. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, dès que tu termines un combat, bah, y a déjà le prochain. Et après, il y a le prochain. Et parce que le sport du MMA est promu de cette manière. Les promotions se font à propos de ce qui vient. C'est pas, les combats ne sont pas vendus à propos de ce qui est arrivé par le passé. C'est Qu'est-ce qui est le prochain? Qu'est-ce qui est le prochain? Il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Il faut qu'on vende le prochain. Il faut qu'on construise qui sera le prochain contender, la prochaine grosse chose qui pourra battre le champion. Et après, il continue en disant, et en plus de cette struggle, de cette lutte,
difficulté.
Et en plus de cette difficulté mentale et émotionnelle, en plus de ça, j'avais eu un training camp pourri, j'étais fatigué, j'étais en situation de burn-out mental. Donc, j'avais l'entraînement pour le combat et puis j'essayais d'y arriver de cette manière. Et puis, pendant l'interview, je disais à Johnny Hendricks, OK, bah, faisons les drug testing, testons pour toutes ces substances pour le combat, etc. Et puis, il a été d'accord au début. Bon, là, on part dans un truc qui est un petit peu à côté, mais ça dure que quelques mots, que quelques phrases. Parce que pour vous la faire courte, en fait, c'était à l'époque où Georges St-Pierre essayait vraiment d'être la figure de proue d'un sport plus propre pour le MMA et donc de vraiment intégrer des tests antidopage plus solides. Et Johnny Hendricks, bah, du coup, soupçonné d'en avoir pris salement quand même, parce qu'il y a eu un avant-après quand l'USADA est arrivé, bah voilà, c'était à l'époque du combat contre Georges St-Pierre. Donc, et je reviens sur la citation de Georges St-Pierre, mon poteau, tu vois. Et donc, mais John Drix ne voulait pas le faire. Et puis après ça, j'ai appris que c'est l'UFC qui lui avait dit de ne pas le faire parce qu'il voulait pas commencer ce trend de gens qui commencent à faire des tests antidopage. Et donc là, il reprend. Je pense que j'avais juste besoin de vacances parce que j'étais dans une sorte de dépression à ce moment-là. Et j'avais honte de l'admettre parce que c'était un rêve que j'avais pour ma vie. J'avais énormément d'argent, j'étais quelqu'un en très bonne santé financière, mais j'avais honte d'admettre que j'allais tout droit vers la dépression parce que je ne savais pas ce que les gens penseraient de moi. Je pensais que les gens me diraient « Oh, mais de quoi il se plaint, lui? Il est champion du monde, il est riche, mais de quoi il se plaint? C'est pas possible. » Et donc, j'avais honte et je traversais cette dépression et en plus de ça, je combattais donc à l'UFC pour que les tests antidopage soient acceptés. Et en plus de ça, j'avais beaucoup de problèmes personnels. J'avais juste besoin d'un break. J'avais juste besoin de m'arrêter. Et il dit, mais voilà, je suis pas stupide. Je sais que c'est comme ça que le business marche. Ils voulaient pas tester leur champion et nanana. Et je pense que je traînais trop de pression depuis trop longtemps. J'ai été champion depuis longtemps et c'est dur de devenir champion, mais c'est encore plus dur de rester champion parce que vous avez toute cette pression sur vous-même. Et bah là, je retrouve plus et je retrouve. Enfin, je pourrais le retrouver, mais bon, j'ai pas envie de reprendre encore quelques secondes de blanc. Mais dans une autre interview de Kamaru Usman, c'est ce qu'il disait aussi en fait, que c'est une pression. On se rend pas compte parce que c'est une pression qui, quand t'es champion, t'as l'impression que tu gagnes le titre, c'est bon, tu y es arrivé. Et en fait, non, c'est l'inverse, c'est tu deviens champion. Et en fait, à chaque combat, tu as de plus en plus de pression. Et c'est ça dont les gens ne se rendent pas compte, en fait, apparemment, parce que plus tu gagnes de combats en étant champion, plus tu solidifies ton statut. Donc, les sponsors vont avec, le statut, le public, l'opinion de tous, toi, le fait que t'aies de plus en plus de cibles. Et donc, en fait, c'est de plus en plus jusqu'à ça ne peut pas aller indéfiniment et donc jusqu'à un point de fracture. Et vu que ce sont tous ces gens-là qui en parlent, je vois pas comment est-ce qu'un humain normal peut résister, parce que si Anderson Silva et Georges St-Pierre les ont eus, je sais pas ce que tu vas dire, mais je te vois te marrer, donc je sens que tu vas dire une dinguerie.
C'est là qu'on voit la différence entre le reste du monde et John Jones, Big Rusty.
Alors, j'allais le dire, mais pour moi, c'est pas pareil.
Alors.
Parce que non, c'est peut-être pareil.
Décider que c'était pas pareil.
Non, c'est en fait, j'allais dire parce qu'il a eu un break imposé parce qu'il faisait trop de dinguerie, mais il est arrivé après qu'il ait déjà été dominant.
Et que je pense que John Jones, il y a aussi ce truc-là. Alors là vraiment, les gars, n'hésitez pas en commentaire à call out de fou parce que c'est une analyse qui est. Enfin, je veux dire, j'ai aucune compétence
là-dedans.
Oui,
exactement.
Moi, j'ai l'impression que John Jones, depuis qu'il a eu ses déboires et qu'il a accepté qu'il était vraiment, c'est que son identité, c'est uniquement le mec qui gagne, en fait. Et qu'en gros, le jour où John Jones perd, tout ça part. Alors que c'est vrai que tous les autres, tu vois, que ce soit Kamaru Usman, que ce soit Anderson Silva, que ce soit, il y avait autre chose derrière ça. John Jones, ça, c'est vraiment uniquement la victoire. En tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Et qu'à chaque fois, pas qu'il se réfugie, mais vraiment, son statut, tout pour lui, c'est je gagne, je suis obsédé par ça, et c'est tout ce qui compte. Et de toute façon, j'ai jamais perdu.
Après, en fait, Moi, du coup, quand je découvrais le MMA, c'était il y a bien des printemps maintenant, mais c'était Georges Saint-Pierre duquel j'avais regardé les premières interviews, parce qu'en plus, il parlait français et tout ça. Et Georges Saint-Pierre, il y avait aussi ce côté complètement obsessionnel. Donc, en fait, je me dis, un mec comme Georges Saint-Pierre et un mec comme John Jones, je me demande s'ils n'ont pas le même degré d'obsession à propos du sport, mais j'aurais peut-être tendance à croire que John Jones, c'est peut-être qu'il est. Alors, je ne sais pas, donc c'est une supposition, mais. C'est là où peut-être le côté à moitié psychopathe, à moitié fou fait aussi la différence, tu vois, pour moi.
À voir, Big Rusty. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que en même temps, quand je suis là, j'enregistre de mon côté le podcast au Ola sur Gym. Il y a cette fameuse citation de Conor McGregor où il dit: "Il n'y a pas de talent, ce n'est que le travail dur." Et puis à la fin, c'est une obsession. Le talent n'existe pas. Nous sommes tous égaux en tant qu'humains et on peut devenir n'importe qui si vous y mettez le temps. Vous atteindrez le top. Et il n'y a que ça. Donc je pense qu'il y a aussi ce...
Le nous sommes tous égaux en tant qu'humains, je sais pas quand même.
C'est ce que Connor nous dit. C'est ce que Connor nous
Oui.
dit, Big
Bon,
Rusty.
alors c'est bon.
Mais voilà. Alors c'est bon. Non, mais je veux dire dans le sens par rapport à ça. Et moi, je suis assez d'accord. Enfin, en gros, ce que je veux dire par rapport à ce que Connor McGregor disait, c'est que je pense aussi que pour atteindre ce top niveau et ça se justifie parfaitement avec Connor McGregor, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les projets qu'il a, il n'est plus obsé. Il n'a plus Il y a autre chose que les MMA, ce n'est pas sa seule obsession. Et comme tu le disais, bah c'est vrai que tous ces gars-là, à part John Jones, qui a réussi à conserver ça, et c'est peut-être ce qui le sépare des autres, c'est de garder cette obsession pour le MMA aussi longtemps. Et que c'est peut-être là le vrai truc, c'est tu ne peux pas rester obsédé par une seule chose pendant, je sais pas, 15, 20 piges, à la différence des autres sports où tu as ces périodes de break où... Pour les sports collectifs, je peux dire que tu peux te reposer sur les autres, parce que quand vous êtes un Kylian Mbappé ou un Tom Brady, bah vous avez énormément de pression sur les épaules, mais c'est différent du MMA, peut-être, sans
Ouais.
doute.
Bah peut-être, peut-être. Mais c'est une bonne question, effectivement. C'est pour John Jones.
C'est.
Voilà.
Et sachant que pour John Jones, c'est pour finir, c'est là où. Et pour moi, on ne le saura que s'il perd un jour ou qu'une fois qu'il aura pris sa retraite et qu'il aura. Enfin. Impossibilité pour lui de revenir, donc je pense quand il aura 50 piges, tu vois, d'avoir vraiment le fin mot de l'histoire quant à, comme tu l'as dit très justement, les pauses de John Jones, parce que c'est vrai qu'il arrivait très jeune dans le sport, à une période où, oui, il a roulé sur tout le monde, mais c'était pour lui c'était parfait parce que t'es dans ton prime athlétique, t'as les gros combats qui sont là, donc c'est un petit peu le moment parfait, et au moment où John Jones commençait à atteindre ce véritable statut de légende, c'est là qu'il a commencé à avoir ses problèmes, et je crois que là il est depuis 2015 ou 2014, John Jones, il est sur moins d'un combat par an, en gros. Donc, ce qui est un
Ouais.
rythme extrêmement raisonnable, parce que quand vous regardez tous ces mecs qui ont ces besoins de prendre des pauses, c'est parce qu'ils sont sur 3-4 combats par an depuis genre 2-3 ans, ce qui est un rythme absolument dinguissime. Donc, c'est vrai qu'un combat par an, ça reste extrêmement raisonnable, parce que t'as largement le temps de te préparer, tu sais que c'est un super fight, enfin, c'est des situations qui sont. On verra pour Israel Adesanya quand il fera son retour, pour Alexander Volkanovski aussi, mais c'est des situations qui sont quand même particulièrement appréciables, je pense, pour les combattants, parce que bah, t'as aussi toute la machine promotionnelle qui se met en place. Enfin bref, vous voyez très bien de quoi je parle quand il y a ces gros events. Est-ce qu'on a fait
Ouais.
le tour, Biosti?
Je crois.
Eh bien, on a fait le tour là-dessus. Mais en tout cas, ouais, non, vraiment hâte d'avoir le.
Le fin mot.
Ouais, mais c'est ça, hâte d'avoir le fin mot, parce qu'on a vu aussi tellement de combattants, et c'est là aussi hein, que je. Comment? Pas mettre des pincettes, mais c'est vrai que pour moi, comme Kamaru Usman, comme
Mettre des
Anderson
pincettes.
Silva, mettre des. Si? Ça se
Prendre
dit.
des pincettes.
Prendre des pincettes, pardon.
Quand tu les mets, toi.
Prendre des pincettes. Mettre des. Oui, prendre des pincettes.
Mettre des douilles.
Non.
Bah pardon, j'arrête. Non, je suis insupportable, je suis
Ce que je
insupportable.
disais, c'était en gros de voir aussi. Ce qui se passe en termes de dialogue pour les combattants une fois qu'ils ont perdu ou une fois qu'il est à la retraite. Parce que t'as pas du tout ce même niveau. Tu vois, par exemple, il y a Connor qui en parlait là lors de toute la promotion de Roadhouse. Tu vois, quand avec José Aldo, il expliquait que Connor avait pas d'enfant, que justement, tu pouvais pas faire les deux quand t'étais combattant. Maintenant, il a ses gamins, il a plus du tout le même discours. Tu vois, donc c'est là aussi où pour moi, c'est vraiment la temporalité extrêmement importante à chaque fois parce que entre le moment où les gars perdre le moment où leur vie évolue, tu peux même te dire, enfin, je veux dire, Connor, entre le discours qu'il a aujourd'hui et le discours qu'il avait en 2013, sur certains trucs, tu te dis, c'est pas du tout la même personne. Sauf que
Ouais.
c'est juste que lui a changé. Il y a aussi, et ça c'est important pour, notamment pour Kamaru Usman, c'est vrai qu'il y a eu ça. Je pense que ça l'a pas fait, comment, craquer. craquer, mais tu vois, on sent que par exemple sur avec Ramzat Chimaev, il y avait dans son discours aussi l'importance de, il va être très bien payé pour prendre le combat contre Ramzat Chimaev, ce que je pense qu'il aurait pas eu avant, tu vois, mais là il était ouais. en mode bon, l'UFC me paye très très bien pour affronter Ramzat, on va aller prendre l'oseille, tu vois. Et c'est d'ailleurs ouais. le poste d'annonce de combat, Kamaru, il dit on va aller chercher l'argent, tu vois.
Ouais.
Donc bon. Bref, Birosti, on a terminé. Ciao. I'm sweet pea. I'm sweet protein. Moins 30%. Surtout my sweet pea. Avec le code la sueur, ils font des casquettes, des compléments alimentaires et des shakers notamment. Et puis on a Holy Moly. Big Rusty Révolution dans les boissons énergisantes. Big Rusty, il est avec lui. Ah bah, il a le shaker. Et il y a une toute nouvelle saveur, si je ne m'abuse, Big Rusty, qui est, comme vous pouvez le voir, avec un petit citron tout mignon. Et donc...
Kiwi. Ouais, attends, je peux... Hop là.
Et voilà. Kiwi Lemony. Donc, on a code
voilà,
la sueur...
Bah oui, parce que...
Parfait.
Vas-y.
Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Et puis, si vous avez déjà commandé chez eux, vous avez moins 10% avec le code la sueur 10. Et c'est les boissons de réhydratation, c'est ça, Big Rusty, qui sont au citron, ou c'est boissons de réhydratation, les boissons énergisantes et les thés glacés?
Réhydratation, elles sont au citron, et ça, c'est un thé glacé. Qui est citron, miel et black tea.
Black on black crime.
Black on black tea. Et aussi, on a nos savons. Juste, je le place, déjà parce que c'est nos savons, et avec le gentilhomme, et aussi juste parce que, juste pour ces stories légendaires de Ben, enfin.
Il est pas. Allez sur les réseaux sociaux d'Onae, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui est
voilà,
en train de se passer.
Et gardez bien en tête que ces stories. Bah, du coup, d'ailleurs, je crois qu'on l'a transformé en post sur Onae avec Ben qui. qui fait du coup, qui explique comment est-ce qu'on part de Mark Zuckerberg pour arriver à Rust.
En chair et en os.
Voilà, dites-vous bien que la voix que vous allez entendre, cet accent qu'on adore, straight from Marseille et ses expressions.
Est authentique.
Authentique, mais surtout, dites-vous que vous êtes dans la présence du génie. Quand vous avez ça, dites-vous que c'est avec Ben, donc c'est lui, le fameux Big Ben duquel on parle tout le temps. Et c'est littéralement un génie en tout, cet enfoiré. Il est trop fort partout. Et du coup, il est là juste avec nous. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Il est avec nous, d'ailleurs, juste parce que il kiffe. Parce que lui, il est refait à vie tellement dans tous ses business, il a tout niqué. Donc, c'est voilà, pour vous dire un peu le personnage. Il fait ça juste pour s'amuser de faire les savons avec nous et Onae. Et parce qu'il kiffe et qu'il est passionné de ça.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.